Et on va accueillir nos invités comme il se doit. Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue. Vincent, donc Vincent Besnard, je n'ai pas écorché votre nom. Hein.
Vincent Bénard.
Bénard, pardon. Dans le sud-ouest, on prononce souvent
tout.
Ça, c'est le coup classique. Donc, vous êtes 5 adjoint au maire de Talence, délégué à la culture, relations internationales et jumelage.
C'est ça. Et merci de m'avoir invité aujourd'hui.
Voilà. Et puis, on va accueillir, mais bon, il fait partie de la maison de la famille. Michel, bonjour.
Bonjour, Joël.
Voilà, Michel. Alors, je vais vous laisser, bien sûr, présenter la 100e chronique. Et on va juste dire en deux mots, après vous allez dire dans la chronique, pourquoi on est ravis de retrouver Vincent aujourd'hui. Parce qu'on va parler bien sûr de ses délégations, mais surtout voilà, du planétarium. Hein.
Voilà, un projet qui me tient bien à cœur, parce que depuis longtemps je dis que c'est déplorable que l'agglomération bordelaise n'ait pas de planétarium. C'est la seule grande ville de France qui n'en a pas. Et heureusement, les choses sont en train de changer grâce à Talence.
Voilà, donc on va en parler avec force détail. Et merci Michel d'avoir organisé également ce lien avec Vincent. Alors d'abord, bien sûr, on va retrouver le protocole habituel, entre guillemets, avec votre chronique. On le rappelle, c'est la 100e.
La Terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, on est toujours en direct, bien sûr. C'est notre journal, on se mercredi 28 juin. Et vous avez bien raison, Michel, de me faire signe. Voilà, on passe pas toujours à avoir ce petit teaser là qui nous met dans l'ambiance. Alors, j'allais me lancer, bien sûr, par rapport à votre 100e chronique, on le rappelle. Hein. Donc, vous allez commencer par nous parler d'actu. Et justement, quelques petits rappels hein, pour cette 100e de la collaboration entre Odo Radio et l'association Constellations et Galaxies.
Voilà, il se trouve que ça tombe bien, ce mois-ci il n'y a pas beaucoup d'actualités astronomiques et astronautiques intéressantes, donc pour une fois on va parler un peu de nous. Donc c'est à l'occasion des préparatifs de Planète Bassins en 2013, où notre planétarium était venu, que j'avais rencontré en juillet Jean-Christophe Blancan de la station, et comme il semblait y avoir un intérêt pour les sujets d'astronomie que j'évoquais lors du pique-nique réunissant les participants sur le site, j'avais proposé qu'une petite émission chronique sur STEM pourrait trouver sa place à l'antenne. L'idée était retenue et s'est concrétisée lors de la préparation de la grille de l'année suivante avec une chronique intégrée dans le journal de midi, en principe le dernier mercredi du mois, pour des raisons pratiques, car c'était le jour où notre planétarium était le moins sollicité, notre activité étant essentiellement dans les établissements scolaires, et parce qu'en fin de mois, je regardais les éphémérides du mois suivant pour rédiger la page « Ciel du mois » de notre site internet, ce qui pouvait aussi alimenter la chronique pour la partie concernant l'observation du ciel. Et c'est comme ça que mon premier passage en antenne s'est décidé pour le mercredi 24 septembre 2014, accueilli au sein du journal de Joël. La structure de ma chronique était déjà constituée de trois parties, avec les actualités d'astronomie ou de mission spatiale, en principe du mois écoulé, puis un thème traité plus à fond, assez souvent en rapport avec l'actualité ou avec le calendrier, comme par exemple les changements de saison, aux solstices ou aux équinoxes, et enfin, le ciel du mois, résumant les éphémérides du mois à venir, c'est-à-dire les principaux phénomènes observables dans le ciel, comme souvent des conjonctions de la Lune avec les planètes, ou plus rarement une éclipse. La durée initiale était envisagée à 10-15 minutes, mais assez vite j'ai commencé à déborder ce format un peu étroit, et presque 9 ans plus tard, et beaucoup plus de cheveux gris, je dois reconnaître que mes interventions mensuelles durent plutôt une bonne demi-heure, j'espère sans lasser les auditeurs.
Alors on en parlera encore après Michel, mais on va rester dans la chronologie de votre chronique. Voilà, puis on rappelle, donc ça continue aujourd'hui, on en est ravis, avec en ce mercredi 28 juin, la 100e chronique.
Voilà, même si Constellations et Galaxies n'existe plus depuis janvier 2021, avec mon départ en retraite, nous avons décidé avec O2 Radio de continuer la chronique. J'avais peur qu'à la longue, les sujets ne s'épuisent, mais il y a toujours des actualités avec les sondes spatiales, les télescopes, la nouvelle conquête de la Lune, le New Space et aussi des nouvelles découvertes, par exemple sur les exoplanètes. Sans oublier les rendez-vous avec le public, comme les Nuits des Étoiles de l'été ou d'autres opérations du même genre, pour lesquelles nous essayons d'inviter les clubs d'astronomie girondins à venir nous parler de leurs animations, comme nous le referons fin juillet. Et le domaine de l'astronomie est tellement vaste qu'il y a toujours des thèmes à aborder ou répéter au fil des années, depuis les représentations du ciel avec les constellations, la mécanique céleste, le fonctionnement des étoiles, les grandes théories comme la relativité ou le Big Bang, les énormes distances dans l'univers. C'est un domaine pratiquement inépuisable, tant le ciel et le cosmos ont toujours fasciné les hommes et excité leur curiosité. Au long de ces presque 9 années, il y a eu assez peu de rendez-vous manqués, parfois à cause de mes déplacements loin de la région ou pour des raisons de santé, comme pendant la crise Covid. Et c'est comme ça qu'on arrive à la 100e chronique au compteur, numéro pour lequel je dois apporter une petite précision. En fait, c'est mon 102e passage à l'antenne d'O2 Radio, car en août 2015, à l'occasion d'une mission à l'Observatoire du Pic du Midi, nous avions organisé 3 rendez-vous téléphoniques dans la semaine pour parler de ce site et de ses activités. Mais pour moi, cela constitue ensemble une seule chronique mensuelle, la 12e, d'où la 100e aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous avez préparé, Michel, quelque chose de spécial pour marquer cette 100e chronique astro ?
Alors, pour être franc avec nos auditeurs, ce que j'avais prévu n'a pas pu se concrétiser aujourd'hui. En effet, avec l'équipe de O2 Radio, nous avions imaginé sortir du studio pour une émission à l'extérieur, et plus précisément à l'Observatoire de Bordeaux, à Florac, afin de faire le point avec différents intervenants sur l'état de ce site et son avenir. Un sujet dont je me suis préoccupé plusieurs fois à l'antenne, notamment en 2016, lorsque les astronomes l'ont quitté pour le pôle universitaire de Talence, en laissant un remarquable patrimoine architectural et scientifique presque à l'abandon. Malheureusement, cette émission extérieure avec plusieurs intervenants a été trop compliquée à organiser en juin, mais nous ne renonçons pas et prévoyons de la réaliser cet automne, sans doute en septembre ou octobre. Mais pour cette 100e chronique, il y a une coïncidence heureuse, car en 2023, on fête le centenaire des planétariums, un sujet que j'ai aussi abordé souvent ici, surtout pour déplorer, comme je le disais, que l'agglomération bordelaise soit la seule grande ville française à ne pas en avoir un, et souvent en lien avec le site de l'Observatoire, où j'aurais bien vu s'installer cet équipement de culture scientifique. Rien de tel n'est prévu, mais on a quand même de bonnes nouvelles pour la ville que nous évoquerons avec notre invité à la fin de mon thème du mois, qui sera donc consacré au planétarium.
Allez, deuxième partie de votre chronique, Michel, et vous allez nous parler du ciel du mois.
Oui, alors puisque nous avons un invité pour le thème du mois, je traite exceptionnellement cette rubrique avant et non à la fin de la chronique comme on en a l'habitude. Comme chaque mois, j'envoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section Astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxies.org. Pour voir les cartes du ciel correspondantes, il est difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je le mettrai à jour pour juillet d'ici la fin de la semaine. Même si les jours ont commencé tout doucement à raccourcir depuis le solstice d'été du 21 juin, nous sommes toujours dans une période moins favorable pour les observateurs du ciel nocturne, avec un soleil qui se couche peu avant 22h et la nuit qui n'arrive que vers 23h15, et même minuit et demi si on attend un ciel bien noir. Fin juillet, ce sera environ une demi-heure plus tôt, avec le coucher vers 21h30 et la nuit vers 22h45. En ce début d'été, au début de nuit, le ciel se partage en deux. Avec moitié ouest, les constellations typiques du printemps, qui sont encore visibles, avec le Lion, bien reconnaissable, basculé vers l'ouest pour aller se coucher, et plus près du sud, le Bouvier et la Vierge, qu'on peut situer avec leurs étoiles les plus brillantes, qu'on trouve tout simplement en prolongeant l'arc de la queue de la casserole, la partie la plus brillante de la Grande Ourse, d'abord Arcturus du Bouvier, puis Spica de la Vierge. La moitié est du ciel est peuplée des constellations de l'été qui finissent de se lever, à commencer par les 3 étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été, Vega, la plus haute, Deneb, la plus à l'est, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer le long du Cygne et de l'Aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, nous conduisant vers le sud à 2 autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire et du Scorpion. En fin de mois de juillet, ces 2 constellations encadreront le méridien du sud au sud, tandis que la Voie lactée se dressera bien plus haute, alors que le Lion sera déjà sur le point de se coucher en début de nuit. Côté planète, en ce moment, on ne peut pas rater le phare de Vénus, visible à l'ouest dès le crépuscule, et qui se couche vers minuit. Un peu plus à l'est, à peu près la largeur de 2 doigts bras tendus, Mars, qui ne brille pas plus que les étoiles les plus brillantes dessinant les constellations, mais bien reconnaissable à sa couleur orangée. Les lève-tôt peuvent voir le matin briller Jupiter, qui se lève vers 3 heures, largement précédé de 2 heures par Saturne. Fin juillet, Saturne se lèvera dès 23 heures et Jupiter vers 1h30. Par contre, Vénus et Mars auront pratiquement disparu du ciel du soir en se couchant pendant le crépuscule. Comme chaque mois, la Lune s'invitera près de ses planètes en produisant des conjonctions. Un peu après minuit, le jeudi 6, la grosse lune gibbeuse se lèvera proche de Saturne. Puis le mercredi 12, ce sera un gros croissant très près de Jupiter, à peine la largeur d'un doigt bras tendu. Mais l'ensemble ne sera visible qu'à partir de 2 heures du matin, donc plus facile à observer à l'aube. Puis il faudra patienter jusqu'au mercredi 19 pour voir un très fin croissant près de la très brillante Vénus, mais très peu de temps pendant le crépuscule car la planète se couchera seulement une heure après le Soleil. Côté étoile filante, il ne serait pas étonnant d'en voir assez facilement car vers le 20 juillet commence la saison des fameuses perséides qui durent jusqu'à la mi-août. Mais d'autres essaims de météorites sont également actifs à la fin du mois. Pour en voir, il faut patienter sous le ciel étoilé, plutôt sans lune, en embrassant du regard la plus grande partie du ciel. Par exemple, allongé sur un relax ou directement sur la pelouse, ce qui peut être assez agréable pour se rafraîchir après une torride journée estivale.
Allez, on est toujours en direct, c'est notre journal en ce mercredi 28 juin. On est toujours avec Michel Favret pour sa 100e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder donc en troisième partie le sujet, le thème, et vous allez nous parler du centenaire des planétariums.
Et oui, pour notre 100e chronique astro, on va parler des 100 ans des planétariums, car c'est en 1923 qu'a été construit le premier vrai planétarium dans le monde. C'est un sujet qui me tient à cœur, car je rappelle à nos auditeurs qu'avec l'association Constellations et Galaxies, pendant presque 14 ans, de 2007 à 2020, j'ai sillonné les routes d'Aquitaine avec un petit planétarium mobile pour apprendre les constellations du ciel et les notions de base d'astronomie aux élèves des écoles, collèges et lycées. Mais avant de refaire un petit historique des planétariums dans le monde et en France, peut-être faudrait-il d'abord répondre à la question « Un planétarium, qu'est-ce que c'est ?» En effet, lors des contacts avec le public ou les enseignants, par exemple, il est fréquent de constater que c'est un outil mal connu et qu'on le confond parfois même avec un observatoire ou un télescope. Pour être rigoureux, je vais revenir tout simplement à la définition que nous donne le Larousse. Un planétarium est une installation représentant le mouvement des corps célestes sur une voûte. On trouve aussi dans le TLF, le trésor de la langue française, un dictionnaire en ligne sur Internet, dôme constituant une réplique artificielle des constellations et des planètes contenues dans l'univers. Avec ces deux citations, on a l'essentiel. Un planétarium n'a rien à voir avec l'observation du vrai ciel, comme dans un observatoire, mais c'est une représentation artificielle du ciel dans une salle, sous-entendu à des fins pédagogiques. Techniquement, il s'agit d'une salle en forme de demi-sphère, afin de représenter ce qui est à nos yeux la voûte céleste, sur laquelle un projecteur, qu'on appelle un planétaire, car il reproduit le mouvement des planètes, projette les étoiles, les planètes et souvent bien d'autres choses, comme le dessin des constellations, et avec l'avènement du numérique, des photos, des vidéos, des animations en 3D, etc. La possibilité de choisir le lieu, la date et l'heure du ciel projeté, ainsi que d'accélérer les mouvements, permet d'illustrer les concepts de la mécanique céleste, comme la rotation de la Terre, le déplacement des planètes, de la Lune et du Soleil, les saisons, jusqu'à aujourd'hui se déplacer dans une représentation de l'univers en trois dimensions pour visiter d'autres systèmes planétaires ou d'autres galaxies.
Alors donc, si j'ai bien compris, c'est au début du XXe siècle, en 1923, qu'on a inventé le premier planétarium.
Oui, si on parle d'un planétarium au sens strict, défini comme on vient de le faire. Mais il y avait eu avant, bien avant, des tentatives pour représenter le ciel. Pour faire un petit clin d'œil à ma Franche-Comté natale, il y a au sud de Besançon, dans le Doubs, la petite ville d'Arquesnans, connue pour sa saline royale, construite au XVIIIe siècle selon le projet d'une cité ouvrière idéale, imaginée par l'architecte utopiste Claude-Nicolas Ledoux. Et parmi les projets qui sont restés dans les cartons de cet architecte, souvent inspirés par des formes idéales du cercle et de la sphère, il y a la ville idéale de Chaux, dont le cimetière aurait dû rayonner autour d'un bâtiment sphérique, dont le toit, si on peut dire, devait être percé de trous pour visualiser le parcours du soleil dans le ciel au fil de la journée. Il ne s'agissait donc pas vraiment d'un planétarium, mais il y avait quand même la notion de salle sphérique et de mécanique céleste. À peu près à la même époque, entre 1774 et 81, un artiste hollandais, Carder de Laine, mais aussi astronome amateur, Heise Heisinga, a construit dans sa petite ville de Waardhoek le planétarium qui porte son nom et peut être encore visité de nos jours. Au départ, il y avait la prédiction d'un pasteur qui semait la panique dans toute la région de la Frise hollandaise, car il annonçait la fin du monde pour le 8 mai 1774 en raison d'un alignement des planètes du système solaire. pour expliquer le fonctionnement du système solaire et montrer que ces alignements de planètes n'ont rien d'extraordinaire, cet artisan a construit un dispositif au plafond d'une pièce de sa maison, peint en bleu pour figurer le ciel, avec 7 sphères pour représenter le Soleil et les 6 planètes connues à l'époque, hein, Uranus et Neptune n'ayant été découvertes que plus tard, des cercles de bronze pour dessiner leurs orbites, et un astucieux mécanisme d'horlogerie composé de plus de 60 roues dentées pour animer leurs mouvements. Même s'il porte encore aujourd'hui le nom de planétarium, ce n'en est pas un au sens strict puisqu'il ne représente que le système solaire, pas l'ensemble du ciel avec les étoiles et les constellations. Le premier vrai planétarium date effectivement de 1923 et on le doit à un opticien, ce qui n'est pas surprenant car les planétaires, les projecteurs des planétariums, sont à l'origine des dispositifs optiques. C'est l'astronome allemand Max Wolf, directeur de l'observatoire de Heidelberg, et Oskar von Miller, fondateur du musée technique de Munich, maintenant appelé Deutsche Museum, qui se sont tournés en 1913 vers la société d'optique Zeiss pour lui proposer de construire un planétarium. Le premier prototype a été installé en août 1923 sur le toit de l'usine Zeiss à Iéna, sous un dôme de 16 mètres de diamètre, puis fut présenté au public en octobre à Munich. C'est seulement en 1925 qu'il a été installé au muséum.
Et en France, est-ce beaucoup plus tard ?
Alors c'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1937 à Paris qu'on a l'idée d'installer au Grand Palais, qui lui avait été construit pour l'exposition universelle de 1900, un musée temporaire appelé Palais de la Découverte, pour illustrer 6 disciplines scientifiques, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la médecine et l'astronomie. Pour celle-ci, un planétarium fut construit dans le parc des attractions, équipé également d'un planétaire Zeiss, et il a eu un grand succès puisqu'il a accueilli plus de 800 000 visiteurs en 6 mois. Avec la réussite du Palais de la Découverte qui a accueilli 2 millions de visiteurs, le Front Populaire a décidé de pérenniser ce musée qui existe encore aujourd'hui et le planétarium y a été installé sous un nouveau dôme de 23 mètres. Il a connu plusieurs rénovations successives et la version que j'ai connue lors de mes dernières visites, toujours avec un planétaire Zeiss, en faisait pour moi le plus beau planétarium de France avec un ciel incomparable comprenant plus de 4000 étoiles très fines et contrastées rivalisant avec les plus beaux ciels visibles en France. Malheureusement, je dois parler au passé, car depuis 2020, une très grosse restauration du Grand Palais est en cours, en principe jusqu'en 2024, et le Palais de la Découverte est fermé. Sauf des installations provisoires, baptisées les Étincelles, situées dans le parc André Citroën, sur le quai de Javel, dont un planétarium, mais seulement de 8 mètres de diamètre et 47 places. Après ces grandes premières et la Deuxième Guerre mondiale, des planétariums ont commencé à s'installer un peu partout dans le monde, surtout dans les grandes villes, mais il n'est pas rare qu'un collège ou une université en possède un, notamment dans les pays où ils sont les plus nombreux, comme les États-Unis et le Japon. En France, il faut attendre les années 1980 pour que les villes se dotent d'un planétarium, au rythme d'environ un tous les 2 ans, en commençant par Reims en 1980 et Strasbourg en 1982. Assez vite, l'idée vient de créer un réseau entre eux pour échanger des astuces techniques et aussi des spectacles. D'où le choix de créer une structure ouverte aux francophones pour y accueillir aussi des Suisses, des Belges, des Canadiens. L'APLF, Association des planétariums de langue française, voit le jour en 1989 à l'initiative d'Agnès Acker, astrophysicienne de l'Observatoire de Strasbourg et directrice de son planétarium à l'époque. Elle compte actuellement dans les 80 membres, dont 27 planétariums fixes de plus de 8 mètres en France, mais aucun à Bordeaux, contrairement à sa rivale Toulouse qui en possède 2 à la Cité de l'Espace. À côté de ces grandes salles, il y a aussi tout un réseau de petits planétariums itinérants, comme celui que possédaient Constellations et Galaxies, où la projection se fait dans une structure gonflable, facile à transporter et à installer dans les établissements scolaires ou les salles des fêtes, par exemple. Ils sont souvent exploités par des petites associations ou des clubs d'astronomie, mais les grands planétariums s'en sont parfois aussi dotés de tels équipements à côté de leurs grandes installations fixes pour mieux répondre à la demande des écoles notamment.
Alors la technique a dû certainement beaucoup évoluer avec notamment l'arrivée du numérique comme dans les salles de cinéma.
Alors effectivement, les constructeurs ont largement adapté leurs produits au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles technologies. Il y a aujourd'hui 7 grandes sociétés mondiales dans le domaine des projecteurs pour grands planétariums. Le pionnier allemand Zeiss, bien sûr. Les américaines Evans et Sutherland, créées en 1968 par 2 professeurs portant ces noms et qui a absorbé en 2006 son concurrent américain Spitz et l'autre américain Skyscan, moins connu. Les japonais Goto, Megastar et Konica Minolta et Cocorico, le français RSA Cosmos, basé à Sorbier, une petite ville à côté de Saint-Étienne. La première génération de projecteurs ou planétaires était optique ou optomécanique, comme on dit dans le jargon. À la base, l'idée est assez simple. Si on place une lampe puissante au centre d'une sphère opaque percée de petits trous représentant les positions exactes des étoiles dans le ciel, cela projette sur le dôme plongé dans le noir des petits points qui figurent exactement ces étoiles comme sur la voûte céleste. En pratique, c'est un peu plus compliqué car pour avoir des étoiles de magnitudes différentes, il faut percer des trous plus ou moins gros pour laisser passer plus ou moins de lumière. Et il faut donc installer des lentilles pour refocaliser cette lumière en un seul point. Sinon, les étoiles les plus brillantes ressembleront à des grosses taches. Il faut aussi des projecteurs annexes pour le Soleil, la Lune et les planètes. Puis d'autres systèmes, un peu comme des diapositives, pour projeter les constellations ou des images réalistes des planètes. Et tout cela est animé par des motorisations permettant de reproduire les mouvements à vitesse réelle ou en accéléré. Aujourd'hui, pour obtenir des étoiles très contrastées et ponctuelles, les planétaires haut de gamme de ce type utilisent des technologies laser et des fibres optiques. Des constructeurs sont restés fidèles à cette approche qui permet d'obtenir le meilleur rendu du ciel étoilé, comme Goto, Megastar et Zeiss. Dans les années 1980, les salles se sont dotées de projecteurs complémentaires, comme des projecteurs de diapo, qui permettaient d'afficher par exemple un paysage tout autour de la salle, pour figurer des déplacements sur la Lune ou sur Mars, ou pour montrer d'autres objets astronomiques comme des nébuleuses ou des galaxies. Tout ceci nécessitait de coordonner l'ensemble avec un dispositif informatique. Avec l'apparition des vidéoprojecteurs est venue la possibilité de créer des systèmes entièrement numériques. Et c'est Evans et Sutherland qui a installé le premier planétarium numérique en 1983 à Salt Lake City où se trouve cette société. Ces systèmes sont très complexes car ils nécessitent un logiciel de simulation du cosmos dont les images sont traitées en temps réel par des puissants processeurs graphiques alimentant chacun un vidéoprojecteur produisant une portion de l'image sur le dôme, car pour obtenir assez de finesse et de luminosité de l'image, il faut toute une série de projecteurs formant comme un maillage du dôme, ce qui nécessite aussi des réglages précis pour avoir une bonne homogénéité de l'image sans chevauchement parasite des différentes portions. Par exemple, j'étais fin mai à Vulcania pour voir le tout nouveau planétarium mis en service en avril dernier, qui est le plus grand de France avec ses 300 places et 22 mètres de diamètre, ce qui dépasse de 50 cm celui de la Cité des Sciences à Paris. Et pour obtenir une image lumineuse de 10 000 pixels sur le diamètre du dôme, il ne compte pas moins de 12 projecteurs. Il a été installé par le français RSA Cosmos, et sans être trop chauvin, je dois dire que pour moi, leur simulateur Sky Explorer produit les projections les plus impressionnantes que j'ai vues jusqu'à présent. Le gros avantage de ces installations 100% numériques, c'est qu'elles sont virtuellement capables de projeter n'importe quoi, transformant en fait le planétarium en salle de projection immersive pour toutes sortes de spectacles, et des sociétés proposent des films full dome, comme on dit en anglais, en français on dit projection pleine voûte, dans des domaines tout autres que l'astronomie, les volcans, les dinosaures, les fonds marins, etc. L'inconvénient de ces systèmes reste que la vidéoprojection n'arrive pas à faire un fond de ciel parfaitement noir, mais les projecteurs les plus récents arrivent à des niveaux de contraste qui leur permettent de rivaliser avec les systèmes optiques. Et si l'on veut le meilleur du meilleur, il existe maintenant des dispositifs hybrides qui allient un projecteur optique pour avoir un ciel étoilé parfait avec un système numérique pour tout le reste, ce qui nécessite moins de projecteurs car on n'a pas besoin d'une résolution aussi fine que pour les étoiles, et le pilotage informatique assure une parfaite synchronisation des deux systèmes. Dans les installations les plus modernes, comme le planétarium de Saint-Étienne rénové en 2011, on a aussi la 3D, ce qui permet, bien sûr en chaussant une paire de lunettes compatibles, de voir les planètes du système solaire orbiter au milieu du planétarium comme si elles étaient suspendues dans l'air, tourner autour d'une galaxie, voir les panneaux solaires de l'ISS frôler votre visage ou apprécier la profondeur des aurores boréales. La toute dernière technique émergente est encore plus surprenante car il n'y a plus de projecteur du tout. C'est le dôme lui-même, recouvert par des panneaux souples de LED, qui devient le système de visualisation. Comme on peut le voir, le monde des planétariums est souvent à la pointe de la technologie, tant la bonne représentation d'un ciel artificiel à 360 degrés est exigeante, bien plus qu'une salle de cinéma, même en haute résolution et sur un écran géant.
Alors Michel, et Bordeaux dans tout ça? Et la question bien sûr, un planétarium existera-t-il un jour dans notre agglomération?
Alors avant d'annoncer de bonnes nouvelles, je veux juste signaler que j'ai pu un peu jouer un petit rôle dans cette évolution. En effet, si j'avais démarré une activité de planétarium itinérant avec constellations et galaxies lorsque je me suis installé en Dordogne en 2007, c'est parce que j'avais constaté à quel point l'Aquitaine était un véritable désert en termes de planétarium. Et donc à partir de 2010, j'ai commencé en tant que membre de la PLF une démarche qu'on pourrait qualifier d'évangélisation auprès des institutions locales afin d'expliquer à quel point l'absence de planétarium dans une grande agglomération comme Bordeaux était aberrante, comme le serait l'absence de tout théâtre, par exemple, si on transpose dans le domaine culturel. Et essayer de suggérer le type d'équipement qui pourrait convenir pour cette grande ville en m'inspirant de l'exemple de Montpellier, avec son planétarium de 15 mètres et 150 places pour une agglomération deux fois moins peuplée. Dans cette tournée, j'ai été reçu par de nombreuses structures, comme le département de la Gironde, la région Aquitaine, la communauté d'agglomération, mais aussi le rectorat, la DRAC et la commune de Florac, car je pensais que le site historique de l'Observatoire serait un bon choix pour une telle installation, l'université, Cap Science, à l'exception notable de la ville de Bordeaux qui m'a fermé ses portes. Il y a 10 ans, en mars 2013, puis de nouveau en 2014, dans le cadre de l'opération Printemps des planétariums de l'APLF, j'avais même installé pendant plusieurs jours notre petit planétarium gonflable dans la bibliothèque de l'Observatoire pour montrer l'intérêt d'un tel équipement sur ce site s'il devait se transformer en pôle de culture scientifique de la rive droite après le départ des astronomes prévu en 2016. Mais toutes ces démarches n'ont abouti à rien de concret et je ne voyais pas d'évolution depuis cette période. C'est pourquoi j'ai été très surpris lorsque la commune de Talence m'a contacté en m'annonçant qu'ils réfléchissaient à la possibilité d'installer un planétarium sur leur territoire. Cela s'est concrétisé officiellement le 12 septembre dernier lorsque le maire, Emmanuel Salaberry, avec sa première adjointe en charge des grands projets de la ville de demain, Frédéric Fabre-Tabourin, ont annoncé lors d'une réunion du conseil municipal ce projet de planétarium dans le cadre d'un aménagement plus global du centre-ville, comprenant aussi une salle de spectacle, dans le quartier de l'actuel Forum des Arts. Depuis, il y a eu 2 réunions avec les partenaires concernés, dont les clubs d'astronomie de la Gironde, le 17 novembre et plus récemment le 7 juin dernier. Et comme le projet commence à se dévoiler un peu, même si tout n'est pas encore défini à ce stade, j'ai pensé intéressant d'inviter Vincent Bénard à venir nous en parler.
Voilà, puis vous avez bien fait, bien sûr, hein, Michel. Allez, moi, je vais relancer un petit peu, puis après, voilà, comme vous êtes plus spécialiste que moi, Michel, je vous laisserai le soin de parler avec Vincent. On rappelle, hein, Vincent Bénard, dont vous êtes adjoint au maire de la ville de Talence, voilà, délégué à la culture, relations internationales et jumelages. Donc, avant de nous parler de planétarium, l'astronomie, en tant qu'élu ou citoyen, une passion, ça fait partie, on va en parler, bien sûr, du planétarium, parce que je sens que le projet aboutit. Hein. On a des points d'interrogation, mais ce goût, voilà, parce qu'on a tous les pieds sur terre, enfin j'espère, mais le nez dans les étoiles. Donc l'astronomie en général, ça évoque quoi pour vous?
Alors je suis physicien de formation,
bon,
donc
voilà, j'avais pas toutes les infos.
Voilà. Donc pour moi, ça parle énormément, bien entendu, oui. Donc je sais pas si vous voulez que je refasse un petit historique.
Oui, moi, regardez, on est dans les temps, parce que bien sûr, c'est de parler du planétarium, et c'est bien, voilà, de contextualiser, entre guillemets. Hein. Oui. Donc en quelques mots.
Donc moi j'ai fait partie de l'évangélisation puisque moi j'ai rencontré Michel Favre dans les années 2010 puisque je travaillais au rectorat, j'y travaille encore d'ailleurs.
D'accord,
et donc c'est à ce moment-là qu'il m'avait parlé de son projet, des soucis par rapport à un manque de planétarium au niveau de la métropole bordelaise en disant que c'était la seule métropole dans laquelle il n'y avait pas de planétarium. Et donc il avait planté la petite graine, voilà. Et donc quand en 2020 notre équipe municipale a été élue à Talence et que Monsieur le maire m'a demandé de réfléchir un petit peu à la requalification du forum, eh bien à ce moment-là, j'ai fait des propositions, sachant qu'en plus, la ville de Talence, c'est quand même une ville ancrée sur la culture scientifique depuis de nombreuses années, bien avant moi, bien entendu. Et donc, c'était tout naturellement que j'ai réfléchi à un projet que j'ai proposé à Monsieur le maire.
Voilà, c'était histoire d'avoir un préambule. Ben Michel, je ne sais pas si vous voulez vous entretenir, je peux mener, mais comme Michel m'a fait signe. Alors là, quand j'entends tout ça, j'ai bien sûr cherché un petit peu d'infos sur le Forum des Arts, etc. J'ai vu qu'il y avait eu un appel à candidature qui avait été lancé, et j'ai lu parmi l'astronomie, voilà, entre les sciences, la biodiversité. Alors si j'ai bien compris, il arrive le planétarium, hein, parce que là j'ai entendu plein de dates. Donc ça se concrétise, oui. On en est où sur l'état d'avancement, du coup?
Alors, le pré-projet a été fait. Mais avant de revenir là-dessus, je veux dire, pourquoi aussi le planétarium au niveau de Talence,
oui.
C'est parce qu'en fait, on a une proximité aussi de l'université. Donc, une grande proximité. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Michel, en fait, quand l'observatoire est parti de Florac, il est allé à Talence. Et donc, c'est à quelques centaines de mètres du centre de ville de Talence. Et donc, on a tout de suite pensé à avoir ce genre d'outil pour notre ville.
Alors justement, l'état d'avancement, Michel, dans sa chronique, a avancé un certain nombre de dates. Parce qu'après, voilà, il y a tout un échéancier, parce que la volonté, bon, elle est avérée, mais ça ne se fait pas comme cela non plus. Il y a certainement des études, voilà, il y a différentes étapes. Alors, on n'est pas obligé de tout préciser, mais dans les grandes lignes, à cette date du 28 juin, qu'est-ce qu'on peut annoncer concrètement?
Donc, le pré-projet a été déjà lancé, hein, c'est-à-dire qu'on a fait des études pour savoir la faisabilité. Donc, à ce niveau-là, on est bon. Donc, je pourrais même vous annoncer le lieu que Michel ne connaît pas encore tout à fait.
Bon, ça transcoupe voilà. Pour la centième.
Et par contre, au niveau du calendrier, puisque ça s'affine au fur et à mesure, évidemment, ça s'affinera de plus en plus, mais on part sur début des travaux en mars 2026 pour une fin des travaux en mars 2027. Il faudra à peu près un an de travaux, puisque le choix a été porté sur le forum, puisqu'on va donc construire à l'intérieur, un petit peu comme ça a été fait au Palais de la Découverte, hein, c'est-à-dire ce sera un planétarium qui sera interne au bâtiment. Puisque, en début de mon mandat d'élu, dans la feuille de route que m'a donnée M. le maire, c'était aussi de travailler sur une bonne visibilité, une requalification du forum. Donc là, on sera sur les deux points, du coup.
Voilà, quelques mots d'ailleurs sur le Forum des Arts et de la Culture. Oui. Parce que nous, on est sur la rue droite, on n'est pas sectaire, on n'est pas chauvin, mais il faut bien qu'on ait l'éditorial. Et on entend beaucoup parler. Donc, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe au Forum?
Plein de choses. Plein de choses, oui, c'est ça. Mais c'est surtout, c'est un lieu sur lequel on tient depuis un certain nombre d'années, à ce que ce soit un lieu à la fois des arts et des sciences. Et donc, depuis, on accueille des expositions et il y a des lieux, pour le moment, qui sont des lieux autour des arts plastiques. Ces lieux-là vont quitter, on va faire partir les arts plastiques puisqu'on est en train de construire.
Mais pour des bonnes raisons, bien sûr,
oui,
c'est
oui.
Pas faire partir pour exclure, pas du tout.
Hein. On va les déplacer, on va trouver dans un endroit qui sera bien mieux. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler aussi sur la requalification du Château des Arts, sur lequel on va construire un pôle culturel, sur lequel il y aura de l'enseignement artistique, à la fois de la musique, de la danse, du théâtre. Et des arts plastiques.
Donc
les
arts plastiques
viendront là.
Du coup.
Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, les locaux seront libres pour pouvoir accueillir ce beau planétarium.
Voilà, il n'y aura pas que le planétarium, hein, si j'ai bien suivi. Parce que là, vous avez abordé salle de spectacle.
Oui. Alors, la salle de spectacle sera à côté. Ce ne sera pas le même
mitoyen,
lieu.
Mais
ce
c'est,
sera
voilà,
pas loin.
C'est pas,
oui,
d'accord.
C'est ça, tout à fait. Ça fera un pôle.
C'est pour ça que je ne commente pas d'impair.
Absolument. On va créer un pôle autour du centre-ville. Et donc, au niveau du planétarium, il n'y aura pas que le planétarium. Parce que, donc, suite à cette idée, avec M. le maire, on a fait des visites de planétarium. On a vu notamment celui de l'espace Mendès France à Poitiers. On est allé récemment à Nantes pour voir le planétarium de Nantes. Et s'il n'y a que le planétarium comme à Nantes, par exemple, s'il n'y a pas d'espace autour, l'utilisation est un peu compliquée. Donc, effectivement, on va en profiter pour créer aussi des espaces tout autour du planétarium, notamment pour l'accueil des jeunes. Voilà.
Voilà, parce que le planétarium, ça intéresse tout le monde. Là, on parle des jeunes, mais les moins jeunes aussi.
Oui, oui.
Bien sûr. Donc là, vous avez été voir donc, d'autres planétariums, parce qu'après, évidemment, il faut savoir l'adapter. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle unique. Et il y a certainement une histoire de taille, de jauge adaptée à la ville. Ça, c'est la volonté, bien sûr, de monsieur le maire, vous en tant qu'adjoint et toute l'équipe municipale. Ouais. Donc, quelques mots, on sait à peu près la jauge, la capacité d'accueil.
Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a des contraintes, puisque du coup, on va l'avoir dans un bâtiment dans lequel il y a déjà des infrastructures. On part sur un diamètre de 12 mètres qui permettra d'avoir un accueil de 80 personnes, ce qui permet par exemple d'avoir deux classes en simultané avec les accompagnateurs.
Il y aura une équipe pédagogique qui sera constituée. Là, je regarde Michel, petit clin d'œil. Voilà, parce qu'il y a le planétarium en tant que tel, mais voilà, il faut que ça soit pédagogique, certes, mais également ludique. Il faut de l'accueil. Donc là, il va y avoir une nouvelle équipe. On va recruter. C'est l'équipe actuelle qui va. Désolé de jouer.
Non.
Après, s'il y a des choses, voilà que.
C'est un cours de réflexion. Là,
voilà, c'est pour ça.
On ne sait pas trop, mais
on
évidemment.
On va pas rentrer dans tous les détails parce qu'après.
Bien sûr. Il va falloir qu'il y ait une équipe adaptée.
Que ce soit voté aussi. Après en conseil municipal, j'entends bien.
Oui, oui.
Mais on tend vers cela d'avoir une nouvelle équipe.
Il y a plusieurs. On est sur plusieurs situations possibles. En fait, soit ce sera l'équipe municipale, soit on fera une délégation de service public, soit en fait on n'est pas encore là. C'est beaucoup trop
bon.
Tôt.
Non, mais là évidemment.
Mais il faudra évidemment du monde.
Voilà, Michel. Autour. Mais n'hésitez pas, vous êtes le spécialiste. Oui. Et puis, je pense, Michel, vous êtes ravi hein, quand vous avez appris parce que voilà, vous connaissez.
Pour tout dire, je pense qu'il n'y a rien de secret. La ville m'avait contacté puisqu'on avait déjà eu un contact et que je menais un peu cette démarche pour qu'un jour un planétarium voit le jour dans l'agglomération. On m'avait invité à venir voir justement ce site pour savoir si on pouvait mettre la planète 1 dedans. Et malheureusement, les mesures qu'on a prises, hein, c'est tout bête, hein, entre les murs, les piliers, etc., on pouvait placer qu'une toute petite coupole et ça aurait pas
été dommage.
Ça aurait pas été du tout à la taille de ce qu'il faut réaliser pour une agglomération, même pour une ville comme Talence, mais encore plus pour une agglomération comme Bordeaux. Mais j'ai compris lors de la dernière réunion, là, du 7 juin, qu'on envisageait maintenant, bien sûr, avec l'autorisation des architectes, hein, modifier la structure du bâtiment pour pouvoir accueillir une coupole bien plus grande. Parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'un planétarium, plus il est grand, plus il est haut. Et souvent, c'est la hauteur aussi qui pose problème.
C'est une sorte de volume, bien sûr, dans l'espace.
Un planétarium de 12 mètres, la coupole fait 6 mètres de haut. Hein. Et si on rentre dedans sans se baisser la tête, c'est 2 mètres de plus. Donc, il est à 8 mètres de hauteur et on a rarement des espaces de 8 mètres de haut dans un bâtiment. Voilà. Non, je voulais juste intervenir pour dire, effectivement, si nos auditeurs ne connaissent pas ce domaine des planétariums, il y a une extrêmement grande variété dans les planétariums, de tout point de vue. De leur taille, il y en a des plus petits, des plus gros. Dans leur façon d'être animés, exploités, hein, il y a des planétariums qui sont liés à des universités, il y en a d'autres qui sont liés à des villes, comme ce sera le cas à Talence. Il y a des cas où ce sont des associations qui ont créé un planétarium et qui l'exploitent. Et dans la façon de les animer aussi, il peut y avoir des planétariums, surtout quand c'est des associations plus ou moins d'astronomes. Ce sont des passionnés d'astronomie, disons, qui se mettent à la pratique de l'animation dans un planétarium. Mais si on prend par exemple une grande structure, je pense que c'est le cas aussi à Vulcania, mais j'ai pas eu le temps d'en parler avec eux, mais par exemple à la Cité de l'Espace, que je connais mieux, à la Cité des Sciences, ouais, l'espace aussi d'ailleurs, il y a tellement d'autres animations à l'intérieur de la même structure qu'en fait ce sont des animateurs, je dirais, polyvalents, et ils sont juste un petit peu spécialisés pour pouvoir animer des séances de planétarium. Dans les séances, mais c'est peut-être un point qu'on pourrait aborder avec Vincent sur un peu l'idée que la ville se fait de la programmation future du planétarium. Il faut savoir aussi que les planétariums, donc la plupart du temps sont numériques aujourd'hui, permettent de projeter des spectacles tout faits, qui durent souvent une grosse demi-heure. Hein. Une séance de planétarium, c'est typiquement une heure, avec l'entrée et la sortie des personnes, c'est 45-50 minutes. Donc souvent, on a un spectacle automatique de 35 minutes à peu près, et puis une petite séance de 10 minutes derrière avec un animateur en direct qui va expliquer le ciel, ce qui est toujours apprécié du public. Hein, parler ne serait-ce que du ciel qu'il va y avoir ce soir, qu'est-ce qu'on pourra voir, les planètes, les constellations, etc. Il y a même des séances qui sont complètement interactives, comme ça, avec un animateur qui même peut répondre en direct aux questions du public. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'imagine la ville de Talence, mais la programmation aussi peut être très variée dans les planétariums. Comme je l'ai dit, même avec des spectacles qui n'ont rien à voir avec l'astronomie. Bon, ça c'est un peu plus rare en France, c'est plus courant aux États-Unis. Et puis il y a aussi même possibilité d'avoir d'autres types d'animations culturelles dans un planétarium. J'ai parlé tout à l'heure du printemps des planétariums, qui était promu par la PLF au mois de mars tous les ans. C'était l'occasion pour les planétariums de faire des choses un petit peu inhabituelles. Il y a des planétariums qui accueillaient un groupe musical ou un piano au milieu du planétarium pour faire une soirée musicale avec le planétarium utilisé un peu comme un décor, quoi, de plein air.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, quand nous sommes allés à l'espace Mendès France à Poitiers, ils font même des résidences d'artistes à l'intérieur du planétarium. Donc on a des accueils d'artistes, et pour nous ça conviendrait aussi, puisque nous avons dédié ce lieu aux arts et à la science.
Voilà, mais ça fait partie justement des questions que j'allais poser. Comme vous avez été visité, hein, je ne sais pas si c'est le terme adéquat de certains planétariums, donc qu'est-ce qu'il en ressort? On revient avec plein d'idées. Alors, vous en aviez déjà, bien sûr, on ne va pas comme cela les mains dans les poches. Alors, qu'est-ce qu'il en ressortit de ces visites? Il y avait certainement plein de questions, puis quand il y a la passion aussi, puis il faut la raison aussi,
oui,
quand on gère une ville. Donc, on revient avec plein d'idées. Là, il y a plein de passerelles à faire, la culture, là, cet exemple sur la musique, spectacle, etc.
Tout à fait, oui, et puis de nouvelles idées, effectivement, puis des écueils, surtout, dans lesquels il ne faut pas tomber, et puis surtout, une envie encore plus importante de construire ce planétarium. Monsieur le maire est revenu, il était enthousiaste. Je me souviens de la première visite de son planétarium.
Donc ça, c'est un bon indicateur.
Ah, oui, complètement.
Quand on revient...
C'était très important. Et j'en profite aussi pour dire, si je peux me permettre,
dans
l'idée de la venue du planétarium, on commence à avoir des expositions. Là, on vient d'accueillir Cosmic Comics, justement, au Forum des Arts et de la Culture, qui était une exposition qui a été conçu par Jean-Marc Lévy-Leblon. Et donc, et on va en accueillir une l'année prochaine, entre janvier 2024 à juin 2024, qui sera sur le thème de l'univers, avec une exposition de Cécile Léna. Alors le nom de Cécile Léna doit évoquer quand même quelque chose, puisque c'est la fille de l'astrophysicien Pierre Léna, et académicien des sciences. Voilà. Et donc, on part là-dessus avec des échelles célestes qui comprend un cabinet de curiosité, et il y aura aussi un mini planétarium pour bien expliquer aux talentés et aux talentaises ce qu'est un planétarium et ce qu'on peut y découvrir à l'intérieur.
Rappelez les dates justement, c'est pour 2024.
Oui, de janvier 2024 à juin 2024.
Voilà, mais ça, c'était déjà sur la programmation, en dehors du...
Non. Là, c'est Angélique Gilibert, qui est notre nouvelle directrice du forum, qui effectivement a eu cette idée, et je trouve une idée géniale de pouvoir faire venir justement des expositions qui vont annoncer notre planétarium.
Voilà, ça fait que de beaux projets en perspective. Michel, je vous laisse parce que vous êtes plus aguerri sur tout ce qui est planétarium. Si vous avez d'autres questions, moi, elles risqueraient d'être basiques parce qu'on a bien compris. Hein. Vous êtes battu parce que vous, de votre expérience, de savoir qu'il va y avoir un tel lieu dans l'agglomération bordelaise, vous qui avez animé souvent, là vous faisiez référence à Planète, où là c'était un festival où on allait au plus près des quartiers. Donc je pense que là, de votre expérience, on est tous fascinés. On a tous envie. Et puis après, il faut qu'il y ait l'équipe autour, bien sûr, des projets en parallèle.
Non, mais l'existence d'un planétarium dans l'agglomération bordelaise, on va voir à quel point ça a pu manquer jusqu'au moment où il sera là, quoi. Parce qu'en fait, ça permet des tas de choses, des nouvelles expositions, bien sûr, sans doute en liaison avec Cap Science, hein, puisqu'il y a un autre pôle de culture scientifique important sur la rive gauche aussi. Ça va sans doute se coordonner, s'articuler, tout ça. Ça ouvre la possibilité de toutes sortes d'animations auxquelles on pense pas forcément au départ. Et pour ma part, je trouve que c'est une idée intéressante, hein, lors des deux dernières réunions là, d'avoir invité les associations d'astronomes de Gironde, parce que les associations peuvent aussi apporter des choses intéressantes, peut-être coordonner des soirées au planétarium ou des après-midi au planétarium où on expliquera le ciel, les constellations, etc., pour le soir aller les observer pour de vrai avec des télescopes, ou les associations, sous réserve que des animateurs du planétarium soient disponibles, ou voire même que des personnes, des associations soient capables de faire fonctionner un système comme ça. Il faut voir qu'avec l'informatique, aujourd'hui, on pilote un planétarium avec un téléphone portable ou une tablette, hein, en appuyant sur des boutons. Peut-être créer leur propre, je vais pas dire spectacle, mais leur propre séance sur un sujet précis, le jour où, par exemple, il y aura une éclipse. Hein, il y a une éclipse en... Alors, je peux l'annoncer. C'est dommage, ce sera un peu avant l'existence du planétarium. Ce sera le 12 août 2026, qui va passer dans le nord de l'Espagne, où elle sera totale. Mais en France, elle sera très grosse. On verra un tout petit croissant de soleil. Bon, bah, c'est l'occasion idéale pour simuler ça dans un planétarium, pour montrer au public à quoi ça ressemble, etc. Donc, je suis sûr qu'il y aura plein d'idées, plein de nouveautés qui vont naître avec cette existence d'un planétarium, parce que c'est vraiment un équipement, un outil très particulier qui est très souple, hein, surtout les systèmes numériques d'aujourd'hui, pour faire plein de choses différentes.
L'université aussi s'est montrée intéressée, parce que avoir un planétarium, c'est un bel outil qui sera à côté de leur laboratoire. De même que la Maison pour la Science, par exemple, au niveau de la formation des enseignants, on peut l'utiliser aussi comme étant un outil. C'est-à-dire, ce sera vraiment un outil polyvalent qui va permettre pas mal d'utilisation, autre que des simples présentations pour le grand public.
Également, c'est un point que je voulais aborder, parce que là, vous serez le seul planétarium, hein, c'est bien ça, Michel, dans l'agglomération.
À ma connaissance.
Et même au-delà. Donc, est-ce que des gens se projettent par rapport au public? Parce que, bon, il y a des passerelles, vous avez cité Cap Science, l'université, les écoles, collèges, lycées. Donc là, il faut laisser le temps au temps, hein, parce que là, d'ici 2027, voilà, il y aura certain nombre d'autres états, mais il sera ouvert à tous. Il n'y aura pas des priorités, mais à minima, souvent avec les structures locales de la ville. C'est un petit peu là, on se projette sur ça par rapport au public. Est-ce qu'il y aura par exemple des temps scolaires, des temps après collés à l'actu? Là, Michel parlait de certains événements. Voilà, je suis pas un spécialiste encore, mais avec 100 chroniques aux côtés de Michel, voilà, il y a les nuits des étoiles, etc. Donc sur le public, il y aura vraiment des moments, j'ai l'air privilégié pour des structures et après le grand public pourra être invité, d'autres partenariats, je présume aussi.
Ce qu'on en a vu sur Nantes, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des temps pour des scolaires, des temps pour le grand public, des temps pour des associations éventuellement. Enfin, on aura tout ce type de possibilités. Oui, bien sûr. Enfin, là, c'est encore un peu tôt pour pouvoir en parler.
Non, c'est pour ça que je...
Oui. Par contre, l'idée, c'est quand même de le rentabiliser et qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en bénéficier, évidemment.
Voilà, parce que l'intérêt pédagogique, ça, il y est. Après, je vais pas vous demander tous les chiffres de nombre de collégiens, de scolaires et avec l'université. Voilà. Mais allez-y, Michel, hein, allez-y.
Oui, c'est peut-être un détail, mais un point fort de l'implantation à Talence, et ça, c'était un peu le point noir dans l'idée que j'avais d'un planétum peut-être un jour à l'observatoire de Florac, c'est qu'il sera situé à un endroit très bien desservi par les réseaux de transport urbain. Hein, je crois qu'il y a le tram, etc. Il y a même un futur projet de RER.
Métropolitain avec l'ouverture de la Médocine.
Oui. Voilà, donc ce sera vraiment facile d'y accéder pour tous les habitants de la métropole.
Et les habitants eux-mêmes, et ça, c'est les habitants de Talence intramuros aussi.
Parce que de mémoire comme ça, je crois qu'à Montpellier, qui est une ville à peu près deux fois moins peuplée que Bordeaux, il devait accueillir 150 000 personnes par an ou quelque chose comme ça. Et c'est effectivement en grande majorité du public. Hein. Les scolaires représentent qu'une portion de l'audience des planétariums.
C'est une jolie portion, pour le terme.
Et il y a des tas de possibilités. Je sais que des planétariums, ces dernières années, ont créé des séances le dimanche matin. Parce que les papas qui sont divorcés et qui ont leurs enfants le dimanche, ben ça fait une sortie.
Puis ça touche un autre public. Voilà. On a déjà les musées qui sont ouverts régulièrement. Il y a les journées du patrimoine. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Là, il va nous rester 3-4 minutes. Donc je ne sais pas si vous voulez... on vous invitera d'ici 2027. Michel, je présume, sera là à la pause de la première pierre, etc. Donc Vincent... pas en termes de conclusion, mais là, minima, sur l'émission, je ne sais pas si vous voulez revenir sur certains points, et d'autres propos, voilà, en quelques minutes, je ne sais pas.
Non, je veux simplement rajouter, oui, que par rapport à la politique culturelle de la ville, en fait, ça s'inscrit complètement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une ville qui, dès le départ, s'est inscrite dans une politique autour de la culture scientifique et autour des arts. Et donc, du coup, si vous voulez, c'était vraiment quelque chose, comme je disais à Michel Favret, les planètes se sont vraiment bien alignées. Et donc, du coup, ça va être la naissance de ce planétarium, va être, je ne parle pas d'un aboutissement, mais un outil qui sera très utile pour notre ville.
Michel, et enfin, j'aurai plus honte quand je passerai sur l'autoroute de voir Bordeaux, cité de l'aéronautique et de l'espace, parce que ça le deviendra pour de bon. Enfin, pas à Bordeaux, à Talence. Voilà. Et juste un dernier petit mot pour parler de la prochaine chronique.
C'est vous qui allez avoir le mot de la fin.
La prochaine chronique, parce qu'il y aura une 101e et peut-être encore d'autres après, j'espère. Ce serait en principe comme le dernier mercredi du mois, donc le 26 juillet. Et c'était juste pour dire qu'on y parlera des Nuits des Étoiles qui se tiendront 15 jours plus tard, le week-end du 11 au 13 août. Et donc, comme d'habitude, on invitera les clubs d'astronomie girondins à revenir nous détailler les animations qu'ils organisent pour cette opération nationale. Et je pense que, comme c'est souvent le cas, on aura au moins Corinne d'AG33 qui viendra nous parler de ce qu'ils font du côté de SOCAT et ailleurs.
Voilà, ce sera avec un grand plaisir. Bien sûr, c'est comme un marronnier pour les journalistes, c'est Nuits Étoiles. On aura aussi Cap Science qui organise. Je sais qu'il y a des partenaires avec les associations. Vincent Bénard, un grand merci à vous. On rappelle, vous êtes adjoint au maire de Talence, délégué à la culture, relations internationales et jumelage. Donc un grand merci pour ces quelques minutes. Et ça y en a noté pour le planétarium. Michel, on se voit pour la 101e. Et si les portes d'observatoire peuvent s'ouvrir, voilà, on verra.
Cet automne, on ira du côté de l'observatoire, je pense.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Michel. Hein. Donc là, on fêtait la 100e chronique. Et il y en aura d'autres, bien sûr. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc merci, Michel, pour cette passion partagée, tout ce travail. Hein, parce que voilà, c'est la passion, mais c'est également du travail. On rappellera juste Constellations et Galaxies. Le site, bien sûr, on peut retrouver toujours .org, bien sûr. On peut retrouver toutes les chroniques et plein d'infos.
Hein. Il y a un espèce de menu en haut de la page avec une section qui s'appelle Astronomie, dans laquelle on trouve et le ciel du mois, pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et toutes les chroniques de radio depuis la première de septembre 2014, dans l'ordre chronologique inverse. Hein, donc la dernière sera tout en haut. Je la mettrai, je pense, en ligne cet après-midi ou demain. Et avec un petit résumé qui explique de quoi elle parle, ce qui permet de picorer, si je peux dire, les chroniques sur un sujet qui peut intéresser plus particulièrement nos visiteurs.
Parfait, on se retrouve très vite, Michel. Merci donc à tous les deux. Merci à Marius, bien sûr, à l'Argie Technique. Merci à Daniel qui prenait des photos.